c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Aujourd'hui, on va parler de Catan, un classique du jeu de société. D'ailleurs, il existe plusieurs versions de joueurs, des versions pour 5 à 6 joueurs. Bientôt, on aura une version avec des éléments 3D, des versions thématiques et de nombreuses extensions. C'est un peu le jeu passerelle pour découvrir l'univers du jeu de société au même titre que les aventuriers du rail. Ce jeu a grandi et il est toujours là. Alors non, on va pas s'intéresser à Catan, mais à Catan à l'aube de l'humanité. Ce n'est pas une extension cette fois, c'est un nouveau jeu, c'est Catan mais au début de l'histoire de l'humanité où les explorateurs notamment découvrent de nouveaux animaux, chassent, s'habillent, construisent, cueillent pour se nourrir. Alors si vous avez déjà joué à Catan, vous allez comprendre rapidement le principe. Mais le jeu est beaucoup plus stratégique que l'original. D'ailleurs, on passe de 10 à 12 ans pour l'âge requis. Dans un premier temps, on va faire le tour de ce qui change dans le jeu de Klaus et Benjamin Teuber. Alors, les joueurs commencent le jeu avec 3 huttes qui remplacent les colonies. Les explorateurs remplacent les routes. Vous pouvez déplacer les explorateurs sur la carte, ramasser des jetons d'exploration et convertir vos explorateurs en huttes. Les 4 pistes de progression remplacent les cartes de développement. Chaque piste de progression fait quelque chose de différent. Déplacer le chasseur, augmenter le mouvement de vos explorateurs, augmenter le niveau de vêtements et augmenter le niveau de campement. Il faudra vous déplacer un peu partout sur la grande carte du monde pour récupérer des ressources. Cette fois-ci, il y en a 4 au lieu de 5. Les peaux que produisent les forêts, la terre aride produit des os, la prairie produit de la viande et enfin la montagne produit le silex. La plupart des numéros sur le plateau sont fixes, sauf ceux du continent de départ, l'Afrique. Lorsque vous placez une hutte, vous récupérez le jeton campement sur lequel vous l'avez placé qui sert de point de victoire. Le premier à 10 points de victoire a gagné. Mais alors comment on joue à Catan à l'aube de l'humanité? Il y a 2 phases dans le jeu, la phase de récolte et la phase d'action. Alors la phase de récolte, le joueur actif va lancer les 2 dés afin de voir quelles sont les ressources qui vont être produites ce tour-ci. La somme des dés va indiquer les terrains qui produisent. Si vous avez positionné vos huttes sur une intersection de terrains qui produisent ce tour-ci, vous obtenez les ressources. Si par exemple vous faites 8, seules les huttes présents autour des terrains où il y a des jetons 8 produiront les ressources et recevront donc des cartes en conséquence. Ensuite vient la phase d'action pour le joueur actif. Cette phase permet de faire du commerce et d'échanger des cartes avec les joueurs qui le souhaitent. On peut aussi faire du commerce seul. Dans ce cas, on donne 3 ressources identiques pour prendre une carte ressource de son choix. Ces ressources vont nous servir notamment à placer un explorateur. Pour ce faire, il faut dépenser une carte viande et une carte peau. Pour le déplacer de 1 à 3 cases, il faudra soit donner une peau, soit une viande. Si vous voulez le faire avancer plus, c'est possible. Mais il faudra avancer dans ces cas-là sur la piste alimentation et donner les ressources en conséquence. Justement, les pistes amélioration, il y en a plusieurs. Sur la piste construction, habillement, ce sont des conditions nécessaires pour récupérer des jetons exploration. Ou chasse pour faire venir les menaces. Ces pistes vous permettent de gagner des points de victoire. Le premier joueur à atteindre le dernier niveau d'une des 4 pistes gagne un point de victoire. Vous pouvez aussi avoir des points de victoire supplémentaires avec le trophée de meilleur chasseur. Le joueur avec le plus de jetons exploration en sa possession donc gagne un point de victoire, mais il peut se le faire voler. Le trophée super cueilleur, le premier joueur à avoir créé un campement sur les 4 continents, rapporte 2 points de victoire. Ou trophée cueilleur, tous les joueurs à avoir fondé un campement sur les 4 continents remportent un point de victoire. Des points, vous pouvez d'ailleurs en trouver partout. Quand on avance sur la piste chasse, on a des bonus qui nous permettent de déplacer l'une des 2 figurines, Néandertal ou Similodon. Si vous posez cette figurine sur une case adjacente à une hutte d'un adversaire, vous pouvez lui voler une carte. Mais attention, les menaces peuvent arriver pour tout le monde. Si vous faites 7 OD, déjà personne ne prendra de ressources, mais en plus, vous allez en perdre la moitié si vous avez plus de 7 cartes. Et le joueur qui a lancé les dés pourra aussi donc déplacer l'une des figurines menaces. Par rapport au Catan classique, avoir 4 ressources ouvre plus d'opportunités d'échange car tout le monde veut les mêmes 4 ressources et le jeu donc est beaucoup plus équilibré. Pareil, échanger les routes pour les explorateurs est intéressant, ça signifie que vous pouvez accéder plus rapidement aux huttes que vous souhaitez et que du coup vous n'allez pas bloquer d'autres personnes. Les explorateurs sont également habitués à explorer à condition que vous ayez les vêtements et le niveau de campement appropriés pour tout ce que vous explorez. Une autre nuance intéressante est que certains jetons d'exploration vous obligent à retirer un numéro de la zone de départ du plateau, ce qui signifie que les joueurs avec des campements là-bas ne collecteront plus cette ressource. Ce mécanisme force les joueurs à quitter l'Afrique, la région de départ. Une super édition avec un matériel de qualité et de superbes figurines. Les cartes sont même livrées dans un joli porte-cartes pour que vous puissiez simplement les récupérer dès la sortie de la boîte. Catan, à l'aube de l'humanité, ressemble toujours à la course de construction de colonies qu'est le Catan d'origine, mais il est plus ouvert et plus stratégique. Vous pouvez toujours rattraper votre retard et les scores sont très serrés à la fin. Catan, à l'aube de l'humanité, ça sort le 20 janvier. C'est un jeu Cosmos distribué par Asmodée. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour toute l'info ludique, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, encore une fois.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le lundi, on retrouve Ludo pour toute l'info ludique. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors Ludo, qu'est-ce qu'il y a en ce moment de sortie? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu as des news par exemple insolites ou encore des avant-premières à nous dire?
Pas trop d'insolites, mais deux super sorties de vendredi là, qui sont en boutique à l'heure actuelle. Chez Silex, il y a le dernier Roland Wright qui va faire fureur, qui s'appelle Colorado.
Toujours pas joué,
c'est vrai. J'ai eu la chance de l'avoir il y a très très longtemps en format print and play. Et donc, moi je m'en lasse pas depuis Cannes en fait. Au début j'avais pas tout à fait les bonnes règles, etc. Je l'ai vu un peu mûrir et grandir. Et puis, il y a eu des petits ajustements. C'est un jeu qui va utiliser la mécanique des sept familles que tout le monde connaît. Donc en fait, c'est même pas un roll and write, mais un call and write. Mm-hmm. On va appeler des cartes. On va demander à quelqu'un de nous fournir telle ou telle carte. S'il a la carte ou s'il a pas la carte, en tout cas, il va se passer des choses. Tout le monde va jouer en même temps, mais le joueur dont c'est le tour va avoir un petit bonus. Tout est visible au milieu de la table, parce qu'en fait, chacun va avoir une map pour griffonner de son côté. Ouais. Mais on va suivre l'évolution de tous les joueurs parce qu'il y a des courses aux objectifs communs. Et donc, on va suivre tout ça sur une feuille qui est au milieu. C'est hyper fluide. Il faut aimer, on va dire, le Far West. Mais
je crois que t'es d'un peu aimé le jeu de cette famille.
Ouais, non, ça marche très très bien. C'est une vraie bonne surprise. C'est un jeu de Joachim Thom et c'est illustré par Emir Dourmisevitch. 2 à 4 joueurs, 45 minutes, 12 ans et plus. Voilà, si vous aimez un peu de nouveauté, être un petit peu surpris de la fluidité, on joue tout le temps, il n'y a pas de temps mort. Et un peu comme un cheval lancé au galop.
Alors, on devrait en parler normalement fin janvier avec Pierre de Silex.
C'est une bonne nouvelle. Et puis, un autre jeu.
Juste un truc sur Joachim Thom, qui est l'auteur aussi des Tribus du Vent, qui a obtenu le Cellulitor stratégique.
Exactement. Comme quoi, il est capable de faire des choses tout à fait différentes, monsieur Thom.
Exactement.
On va rester plus ou moins dans le roll and write, parce que là, en fait, ça va y ressembler, mais on va rien cocher du tout. On va poser des petits cubes. C'est chez Ori Games et c'est la guide des expéditions marchandes qui est sortie la semaine dernière.
Toujours pas joué.
Donc un jeu de Matthew Dunstan à qui l'on doit Bubble Story et le bientôt récent, je sais pas encore si c'est sorti, Dice Hospital, Roll and Write.
Ouais, il sort la semaine prochaine, Dice Hospital.
Ouais, je crois que les backers ont été livrés du Kickstarter, ceux qui avaient choisi cette option. Et il a pas fait ça tout seul, il y a aussi Brett Gilbert à qui l'on doit Elysium, un jeu qui était chanté chez Bombix, qui est exceptionnel. Mmh. Et un jeu qui est sorti aussi il y a pas mal de temps chez Asmodée qui s'appelle Divinare, un jeu mais magnifique dans sa conception, son illustration, un jeu... Sautez dessus, franchement, si vous arrivez à l'avoir en Oka, celui-là il est vraiment bien, un jeu de déduction et de pari.
D'accord.
Donc qu'est-ce que c'est Guild des Expéditions Marchandes? C'est un jeu où en fait on va évoluer sur sa map personnelle avec des petits cubes en fonction du nombre de tours. On va tout enlever ensuite et puis on va créer des petits villages pour repartir, pour essayer d'avoir le plus de points possible et satisfaire aux objectifs. Des super sensations, ça joue vachement bien et puis il faut sauter dessus, c'est vraiment très étonnant, ça marche beaucoup.
On devrait en parler.
Un 4 joueurs, il y a un mode solo, 10 plus 45 minutes.
Très bien. On devrait en parler en détail peut-être bientôt dans C'est Ludique.
Exactement, deux petites news.
Oui.
Chez Matago, un jeu qui s'appelle Kite.
Ouais.
Je sais pas si tu...
Si, j'ai vu des vidéos et tout avec les sabliers.
Ok, ça marche. C'est un jeu qui a bien pesé à Essen, petit jeu dans l'univers des cerfs-volants, c'est pas commun. Et puis avec un matériel aussi, alors il y a des cartes, ça on a l'habitude de les voir, mais il y a aussi des sabliers colorés asymétriques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes
durées.
C'est un jeu coopératif, on va jouer des cartes de couleur, Et du coup, on va essayer de laisser les cerfs-volants, qui sont en fait les sabliers, dans le ciel. Donc en fait, à chaque fois qu'on va jouer une carte de couleur, on va retourner un sablier. Et puis c'est coopératif, il faut absolument qu'aucun sablier ne se vide. Eh bien écoute,
c'est pas mal du tout.
C'est coopératif, ça a l'air très très original. J'en ferai pas 10 parties de suite, à mon avis, parce que ça doit être un peu fatigant mentalement, tu vois, de gérer cette pression. Mais c'est Matago qui s'en occupe, et puis ça va être jouable à Cannes,
oui,
au festival, à la fin du mois de février. Je pense que les tables vont être pleines.
Voilà, on s'en fera une partie, Ludo.
Ah, sans problème. Chez Mad, je sais pas si tu connais Fantasy Ruins.
Ah bah oui,
un
Fantasy
petit jeu
Ruins,
de cartes sympa. Bon, voilà, écoute, qui a eu le Spiel en deux, enfin qui a été nommé au Spiel en 2021.
Spiel, ouais.
Et eh ben écoute, Mad Distribution qui distribue ce jeu nous annonce que le jeu va ressortir avec une thématique à la Star Trek.
D'accord.
Pour ceux qui aiment ça, donc c'est le même jeu, sauf que bon bah on rethématise et puis on nous fait un petit truc Star Trek. Écoute, certains vont faire Star Wars en deck building dans pas longtemps.
Oui.
Là, bah pour les amoureux, il y a deux teams en général. Il y a la team Star Trek et la team Star Wars.
Ah, moi, je suis plutôt Star Wars.
Moi aussi. Bon, écoute, je pense qu'on fait plus partie de la team Star Wars, mais je connais des gens qui sont sur du Star Trek et je pense que ça leur plaira d'avoir un jeu qui a fait ses preuves. Hein.
Fantasy Rims, c'est très très bon,
très bien. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Et je crois que tu as une big news.
Ouais, une big news. Ça me permet de mettre en avant un autre média qui s'appelle Proxy Jeux, qui fait aussi de la radio.
C'est pas vrai.
Si. Et c'est une grosse équipe. Ils font du stream de radio, etc. Et là, ils viennent de sortir un dossier joué avec des enfants. Donc, il y a quatre sujets, jeux et apprentissage, études des jeux adaptés pour enfants, stop aux idées reçues, et que faire des enfants mauvais perdants. Donc, c'est en ligne sur le podcast de proxyjeux.fr. Suivez-les. Il y a toujours des choses intéressantes. Ça blabla, parfois ça dure un peu longtemps, mais bon, en stream, on peut s'arrêter aussi quand on veut. Vous pouvez aussi les écouter en direct. Mais voilà, franchement, c'est une super équipe. Et puis là, c'est rare qu'on parle aussi du jeu avec des enfants et de jouer surtout avec eux. Donc voilà, j'ai sorti ma petite casquette de ludothécaire et je mets en avant cette super équipe de Proxy Jeux.
Très bien, merci beaucoup Ludo. Juste une petite chose, tu sais que jeudi, c'est une spéciale Trip Track avec Guillaume.
Ouais.
Je crois que toi, tu as participé à Trip Track.
J'ai fait un tout petit peu. Écoute, j'ai dû faire deux Trip Track télé et un débat d'idées aussi sur l'intelligence pure avec des amis sur le jeu art ou culture. Et puis j'ai aussi posté très très souvent sur le côté blog en fait de Trip Track. Et puis voilà, donc
ça représente quoi pour toi Trip Track?
En fait, c'est quand moi j'ai pris mon boulot de ludothécaire, je connaissais déjà un petit peu les jeux, mais j'allais très rarement sur Internet parce que j'étais plutôt côté jeu de rôle à la base au début et Magic. Donc en fait, quand j'ai pris mon poste de ludothécaire en 2004, c'était tout nouveau pour moi. J'ai dû, dans un premier temps, j'avais 6 mois où je devais préparer un peu, tu vois, le terrain, acheter les jeux, etc.
Ouais.
Et il a fallu que je me mette au goût du jour. Donc pendant 3 mois, tous les jours, j'ai regardé toutes les vidéos des jeux, des trick-track, les explications de règles et des parties. Donc c'était, je sais pas, on va dire 4 à 5 heures par jour non-stop.
Ouais.
Sauf qu'au début, j'avais pas d'abonnement. Donc je les avais en low definition, si tu veux.
Ouais.
Et il y en a certaines, c'était quand même des gros carrés de pixels. Ça m'a un peu défoncé les yeux. Mais je me suis tapé ça, quoi. Ça a été pour moi une base de données, une source hyper intéressante. Et puis après, ça a roulé. Écoute, après, j'étais sur les forums, j'ai été sur le blog, j'ai été sur plein de trucs. Et puis, j'ai rencontré les gens. Et puis, j'ai été à Orléans. Et puis, voilà, quoi.
Et bah ouais. Et
donc, Trick Track, c'est une institution. Et avec toujours des gens formidables derrière qui pensaient aux autres, en fait.
Ouais. Donc, Trick Track, c'est terminé, hein, malheureusement. On fera le point tout ça avec Guillaume. C'est jeudi, hein, donc jeudi émission spéciale à partir de 9h35. Je présente pas de jeu, hein, c'est direct avec Guillaume. On parle de Trick Track et de la suite aussi pour lui, parce qu'il va certainement rester dans le monde du jeu, Guillaume.
Ah, il y aura peut-être alors des exclus,
peut-être. Okay. On ne sait pas, on verra.
On écoutera ça en direct.
Ça marche. Salut Ludo et à lundi.
Bonne semaine, à lundi prochain.